Bonjour et bienvenue, vous écoutez Litteramour, le podcast franco-allemand de littérature en compagnie de Clarisse Gosset et de...
Sigrid Brinkmann.
Il y a dans l'histoire récente des dates qui sont profondément ancrées dans l'inconscient collectif et pour lesquelles chacun et chacune d'entre nous sait exactement dans quelles circonstances il ou elle a appris la nouvelle. Le roman « Stern 111 » du poète et romancier Lutz Seiler commence dans les jours qui ont suivi la chute du mur de Berlin. Son personnage principal, Karl Bischoff, a 26 ans, il a appris le métier de maçon, puis a entamé des études de littérature. Il rêve de mener ce qu'il appelle une existence poétique. Pendant quelques semaines, il se retrouve coincé en province, plus exactement à Gera, dans la région de Thuringe. Ses parents lui ont demandé de garder leur appartement. Quant à eux, ils sont montés en tenue de randonneur avec leur sac à dos et un accordéon dans un train en direction de l'ouest. Ils veulent réaliser un projet dont leur fils ne sait rien.
Also, das muss noch ein bisschen ziehen. Dann wollt ihr vielleicht ein Wasser? Auch? Ja, ne?
Ja,
cool.
Nous sommes allés à Wilhelmshorst, au sud de Potsdam, rendre visite à Lutz Seiler, qui a reçu le prix de la Foire du Livre de Leipzig en 2020 pour son roman Stern 111, Stern 111. Lutz Seiler vit dans la maison-musée consacrée au poète Peter Huchel, quand il n'est pas à Stockholm, où il habite également.
Das ist das Haus Peter Huchels, der hier 20 Jahre gelebt hat.
Nous sommes ici dans la maison de Peter Huchel. Il a vécu pendant 20 ans ici. Il était un des poètes les plus importants du XXe siècle. Et sa veuve nous a laissé cette maison. Nous sommes une association qui finance le musée. Nous avons maintenant une exposition sur la vie et l'œuvre de Peter Huchel et nous organisons une lecture une fois par mois, quand on a le droit de le faire. Juste derrière la maison, c'est la forêt. On est en plein cœur de la marche de Brandebourg, dans la Mittelmark, au sud de Potsdam. C'est la région où Huchel a grandi. Son grand-père avait une ferme dans le village voisin. C'est là qu'il a fait ses premières lectures. Et c'est surtout ici qu'il a créé la revue Sinn und Form, qui existe toujours. Une revue très belle et importante dans le domaine littéraire et culturel. Il en était le rédacteur en chef, et nous sommes ici dans la salle de rédaction de Sinn und Form.
Und wir sitzen hier im ehemaligen Redaktionszimmer von Sinn und Form.
Les pièces de la maison musée sont claires et lumineuses. Des poèmes et des esquisses sont accrochés au mur. Qui veut éteindre l'aurore écarlate avec un seau d'eau? Se demandait Peter Huchel, dont la vie est représentée sur les panneaux muraux. En 1971, Peter Huchel et sa femme furent enfin autorisés à quitter la RDA après avoir été espionnés et assignés à résidence par la Stasi pendant 20 ans. En novembre 1989, les parents de Karl Bischoff, le héros du roman de Lutz Seiler, lui demandent de masquer leur départ subi vers l'ouest en s'installant chez eux pour que l'appartement reste occupé. Karl Bischoff réalise rapidement que ses parents ne reviendront jamais et ne sait plus qui ils étaient vraiment. Leur rapidité à partir, leur optimisme soudain sont pour lui un mystère derrière lequel il devine un secret. Que sait-il de leur vie d'avant ? De leur amour pour le rock, des nuits qu'ils passaient jeunes à danser, de leur espoir secret de pouvoir un jour traverser l'Atlantique pour gagner la côte ouest des États-Unis et y tenter une vie nouvelle, même si celle-ci ne devait être que temporaire.
Dieses Elternrätsel trägt ja auch irgendwie das Buch, also diese Unklarheit, die dann herrscht auch im Kopf von Karl, wer das eigentlich ist.
Oui, le secret des parents porte le livre. Cette chose confuse, qui sont-ils ses parents en fait? L'enfance, les images que Karl garde de son enfance, tout est fondamentalement remis en question par la façon dont soudain il se comporte. Ces deux quinquagénaires qui n'ont jamais quitté l'est de la Thuringe partent dans le vaste monde. C'est un choc que Karl doit encaisser. Et peu à peu, il commence à comprendre, mais le secret ne sera dévoilé qu'à la fin, lors de la conversation qu'il a avec son père. C'est aussi une vexation pour le jeune homme. En même temps, c'est un moment décisif dans son propre développement personnel. Il est beaucoup question dans mon livre des changements qui se produisent dans cette troisième décennie de la vie. Je trouve que la période entre 20 et 30 ans est la plus difficile dans la vie. On en voit de toutes les couleurs, mais il faut s'en sortir et trouver sa voie.
Gebeutelt wird und man muss irgendwie klarkommen und irgendwas für sich finden. Was mache ich eigentlich in dieser Welt?
Qu'est-ce que je fais sur cette terre? On est sorti des évidences de l'enfance et de la jeunesse, partout où l'État avait tracé la voie. On est dehors maintenant, on doit prendre sa vie en main. Et dans le roman, il y a aussi, bien sûr, la césure qui a marqué la chute de Berlin en 1989, ce changement d'époque. Karl, le personnage principal du roman, a un sacré fardeau à porter et beaucoup de choses à surmonter. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'il apprend à devenir un être autonome et à voir que ses parents sont aussi des individus à part entière, au-delà du fait qu'ils sont ses parents. Il les voit comme des personnes ayant de grands rêves qui n'ont rien à voir avec lui, avec leur enfant. Ça, c'est aussi une des étapes importantes qu'il franchit finalement. À la fin du livre, quand il est à la plage, à Malibu, il se sent perdu, mais c'est aussi un beau sentiment que de se perdre, parce que maintenant il peut partir et entamer sa propre vie. Les choses sont réglées.
Lutz Seiler nous a lu le début du chapitre Gießen, Rainer Dietz. Clarisse lit la traduction de Philippe Giraudon, qui paraîtra en janvier 2022 aux éditions Verdier.
Les lettres ont l'air fatiguées, pensa Karl. Les enveloppes, froissées et usées, arboraient plusieurs cachets énigmatiques qui laissaient supposer bien des détours. Karl se demanda si elles avaient été lues, si l'on continuait de les lire, de les bloquer, ou si l'on pouvait les faire disparaître. Oui, c'était fort possible. Devant le code postal de Guéra, dans son enfance, Karl entendait toujours « mode postal ». Sa mère avait inscrit un énorme zéro, ce qui parut étrange à Karl, jusqu'au moment où il comprit que c'était un O pour Osten, l'Est. L'écriture familière, d'une délicatesse sans prix. Avant de pouvoir commencer à lire, Karl eut une petite absence, un vieux réflexe déclenché par la vue de cette écriture. Il était redevenu l'enfant qui trouvait le matin, avant l'école, un mot de sa mère à côté de l'assiette du petit-déjeuner, et dont le regard, sans lire, se perdait dans les courbes et les boucles coulant avec élégance de ligne en ligne. La première lettre semblait avoir été rédigée dans un état extrême d'excitation et de confusion. Elle contenait une description fragmentaire de leurs premières étapes à l'ouest, une suite chaotique de lieux que Karl tenta plus tard d'ordonner logiquement dans un croquis. L'impression qui se dégageait était qu'ils avaient tourné en rond sur des centaines de kilomètres, d'abord en direction du nord jusqu'à la frontière hollandaise, puis de nouveau vers le sud, en longeant le Rhin. Notre exode, comme disait maintenant sa mère. Karl fixa la feuille du relevé topographique au-dessus de l'établi, à côté du flûtiste. Le chemin de mes parents. Il ne savait pas vraiment pourquoi il avait donné à son croquis un tel titre, étrangement compassé. Sans doute n'était-ce pas étonnant après être resté si longtemps sans nouvelles d'eux, après leur si longue disparition. À présent, il les retenait fermement, les gardait sous ses yeux, et le mot prosaïque de « chemin » n'était assurément rien d'autre qu'une tentative d'apaisement, un désir de revenir à la normale et de ne pas avoir aussitôt la tête remplie des images d'histoire où tout commençait par une décision incroyable, erronée, avant d'aboutir, en une progression fatale, à la catastrophe. Karl, le fils abandonné, part pour Berlin avec la voiture de son père, une Chigouli de fabrication soviétique. À Berlin-Est, il rencontre des squatteurs et s'installe bientôt lui-même dans un immeuble vide. Contrairement aux squatteurs de l'Ouest, les Berlinois de l'Est disaient qu'ils mettaient sous leur protection les immeubles abandonnés et délabrés qu'ils occupaient. Des draps pendaient aux façades, garnis de slogans.
Soyons les défenseurs de ces immeubles. Nous ne sommes ni une horde ni des malappris et ne faisons pas honte à la patrie. Le nouveau domaine de Karl, c'est le quartier situé autour du château d'eau à Prenzlauer Berg.
Ja, vielleicht ist es sogar so, dass durch 89, also durch den Mauerfall, die Westberliner besetzte Szene einen ganz unerwarteten Auftrieb eben noch einmal bekommen hat, weil
peut-être que la chute du mur en 1989 a réveillé de manière inattendue les squatteurs de Berlin-Ouest, parce que soudain on a eu accès à des maisons vides. Et puis il s'est passé ce qui s'est passé partout dans la société. Les gens de l'Ouest sont venus et nous ont expliqué comment il fallait faire. Les squatteurs de l'Ouest sont venus et nous ont dit quelles affiches on devait mettre au mur. Comment montrer que les maisons étaient squattées? Comment protéger les immeubles d'agressions extérieures? Ils nous ont dit qui étaient les ennemis, c'est-à-dire les flics et les nazis. Et aussi comment on pouvait plus ou moins s'en sortir
financièrement.
Soudain, le prix d'une bouteille de bière est passé à 3 marks. Mais tout cela n'intéressait pas les squatteurs de l'Est. Ils voulaient fêter la liberté retrouvée, ils voulaient faire un peu la fête et ces maisons s'y prêtaient bien. Et voici qu'à nouveau quelqu'un arrive et nous dit comment il faut faire. C'est pour cela que beaucoup de squatteurs de Berlin-Est ont essayé de ne pas se laisser envahir par les squatteurs de Berlin-Ouest qui voulaient donner un caractère politique à toute cette situation. Par exemple, l'immeuble situé au 5 de la Schönhauser Allee avait été squatté par Alyosha Rompe et sa troupe Feeling B. Il n'y avait pas un seul Wessi dans cet immeuble parce qu'on voulait autre chose. Le conflit qu'il y a eu autour de l'immeuble du 5 Mainzer Straße, c'était un conflit ouest-berlinois en territoire est-allemand, pour ainsi dire.
Dans cette période de flottement qui a suivi la chute du mur de Berlin, l'État RDA et ses institutions existaient encore, même s'ils n'avaient de facto plus de pouvoir. Les administrations ne savaient plus comment agir. Le pouvoir se trouva dans une sorte de vide jusqu'au 3 octobre 1990, le jour où l'unification allemande fut scellée. Lutz Seiler regrette que le processus d'unification de l'Allemagne n'ait nullement tenu compte des revendications de la population est-allemande. Comme nombre de ses concitoyens est-allemands, il a vécu l'unification de l'Allemagne comme le rattachement de l'ancienne RDA à la République fédérale.
Man brauchte eine gesetzliche Grundlage, um das hinzubekommen, und man hat zurückgegriffen auf ein altes Gesetz.
On avait besoin d'une base juridique pour y arriver, et on est allé chercher une vieille loi, celle qui, il y a bien longtemps, avait servi lorsque la SAR avait réintégré la République fédérale. Ça, c'est un sujet franco-allemand. Et on a dit qu'un peu plus tard, il y aurait une assemblée constituante qui adopterait une nouvelle constitution. Une constitution qui serait voulue par la population d'Allemagne de l'Est et de l'Allemagne de l'Ouest. Et c'est ce qui n'a toujours pas été fait. Et c'est aussi la source de nombreux problèmes. Symboliquement, on n'a pas donné le droit de regard aux gens de l'Est.
In Ost-Berlin. Also ehrlich gesagt,
pour moi, cela a été réellement une aventure de revenir à cette époque révolue de Berlin-Est. Mais il fallait que 30 années passent pour que cela puisse me paraître à nouveau exotique et que j'ai vraiment envie de m'en souvenir et d'écrire sur ce sujet. On avait eu tellement d'histoires concernant cette période de la chute du mur, mais un roman comme celui-ci, il n'y en avait pas eu. Et il fallait aussi dépasser cette période où l'ordre d'être euphorique ressortait de tout ce qu'on pouvait rassembler comme matériel, où certains disaient « c'est dingue, c'était la plus belle période de notre vie, blablabla ». Il fallait laisser tout cela derrière soi, et pour moi, ce qui s'est concrètement passé, c'est que je suis retourné dans la chambre où j'habitais alors et que j'ai essayé de me souvenir à quoi ressemblait cette pièce alors. À quel point la situation était-elle précaire? À quoi ressemblait la rue? Elle était comme en 45 en fait, délabrée, et la césure de 89 se superposait à celle de 45. Il y avait beaucoup de délabrement, mais en même temps, cela brillait. C'est le phénomène majeur de cette époque. Le délabrement était une promesse. Parce que nous étions tellement conscients de cette césure historique et qu'on se rendait bien compte qu'il se passait quelque chose de très particulier. Cela a libéré beaucoup d'énergie, une énergie ludique, beaucoup de mélancolie aussi, et c'est ce qui fait le caractère unique de cette époque, ce mélange.
Lutz Seiler partage sa vie depuis de nombreuses années entre la Suède et l'Allemagne. Ses carnets de notes l'accompagnent partout. Ce n'est qu'en 2014, avec la parution de son livre Crusoe, que le poète Lutz Seiler, aujourd'hui âgé de 57 ans, s'est fait connaître du public allemand en tant que romancier. Il est question dans le roman d'un groupe de jeunes Allemands de l'Est, anticonformistes, qui passent l'été 89 sur l'île de Hiddensee, à la mer Baltique. Ils travaillent comme serveurs. On peut lire Stern 111 comme la suite de Crusoe. D'ailleurs, le personnage de Crusoe fait une apparition rapide dans le café légendaire Die Assel, le cloporte, où Karl a fini par trouver du travail. Quand Lutz Seiler a-t-il commencé à travailler à son roman Stern 111?
Il y a des cercles thématiques qui nous occupent pendant des années et on prend des notes. Il y a un moment de cueillette, on glane, on dépose des choses dans un dossier. Et ce qui est important, c'est de noter des choses sans qu'elles aient forcément un lien avec le sujet sur lequel on travaille. Chez moi, il faut que 7 années passent pour que mes notes consignées dans mes carnets obtiennent une qualité, je dirais, légendaire, une qualité qui les rend utilisables pour l'écriture littéraire. Et parfois, il m'arrive de dire « Hey, c'est moi qui ai écrit ça ?» Bon, bien sûr, il y a des indices qui me font penser que oui, mais les notes me paraissent étrangères. C'est comme si j'avais du matériel autobiographique étranger dans mes carnets de notes. Quant au dialogue, c'est ce qu'il y a de plus difficile. On ne les trouve pas dans les carnets de notes.
Also das ist für mich am schwierigsten, Dialoge zu schreiben. Und die finden sich sehr, sehr selten in den Notizbüchern.
Dodo ne dit pas une parole. Et pourtant, tous les membres de la meute ingénieuse aiment profondément ce personnage. Dodo est une chèvre.
Ja, die Ziege, die war irgendwie da. Also da kann ich gar nicht so richtig, da habe ich keine...
La chèvre, Dodo, elle était là, tout simplement. Je n'ai pas vraiment d'explication convaincante à donner. Elle était là depuis le début. Le premier manuscrit, je l'écris au crayon à papier, dans un cahier. Les 2-3 premières pages, je les écris spontanément. On commence. Et la chèvre est assise à l'arrière de la voiture de Karl. Le chapitre se déroule complètement différemment. Il la fait sortir de la voiture et la laisse au bord de la route car il ne veut pas l'emmener chez lui. Et puis il commence à neiger. Il rentre à la maison, se couche et soudain, il ne peut plus supporter d'avoir abandonné la chèvre. Il retourne là où il l'avait laissée. Elle est toujours là. Il neige. Il l'emmène à la maison. Dans cette première version, la chèvre Dodo habitait chez Karl. Mais c'était trop. Il fallait qu'elle joue un autre rôle. Das kluge Rudel, la meute ingénieuse. J'ai moi-même vécu à Berlin pendant cette période. J'ai travaillé dans ce bar, le Cloporte, et j'ai toujours eu un certain groupe de gens en tête lorsque j'écrivais. Et dès que je suis entré dans la langue, dès que j'ai trouvé ces deux mots avec le U au milieu, das kluge Rudel, dès ce moment-là, le groupe a changé. C'est cela le travail de la littérature. Dès que je rentre dans la phrase et que je trouve un mot, cela en appelle d'autres. En fait, je suis toujours à la recherche d'un son particulier. La phrase doit sonner de telle manière et doit avoir un rythme et tout cela appelle un certain vocabulaire. Mais avant cela, il faut que j'aie récolté beaucoup de matériel, que je l'ai brassé pour pouvoir m'en détacher et m'élever.
Nombre de documents, de faits et de détails restèrent longtemps oubliés et ne refirent surface que lorsque Lutz Seiler se mit à faire ses recherches. Ainsi, le transistor modèle Stern 111.
Ja, also Stern 111, das ist im Grunde die erste große Anschaffung gewesen.
Oui, alors le transistor Stern 111, modèle étoile 111, a été le premier gros achat qu'ont fait mes parents. Le premier appareil électrique, une radio portable qui était dans une caisse en bois, aussi grande qu'une petite valise avec un couvercle doré derrière lequel se trouvait le haut-parleur. Au fond, il y avait une petite ouverture pour les piles. On pouvait vraiment l'emporter et la faire marcher avec des piles plates. Ouais, cette radio a été sur notre table à manger pendant des années. Le matin, on écoutait la station Bayern 3. Cela rythmait notre journée. On n'avait pas tellement d'objets à l'Est, et le peu de choses qu'on avait, on en prenait grand soin. C'était presque des membres de la famille. Ils étaient témoins de notre existence. Il pouvait arriver que ma mère me dise « Allez, viens, Lutz, on va faire la vaisselle et après on écoutera une bonne émission de radio. » On écoutait des séries comme « Neumann, zweimal klingeln » ou « Was ist heute bei Findings los? Ça existait déjà, les séries. Cette radio ne joue pas un rôle majeur dans le roman, mais elle est un motif autour duquel se rassemble cette petite famille qui éclate au moment de la chute du mur en 1989. Mon père a acheté cette radio quand il était étudiant, en 1964, et on l'a eu pendant plus de 20 ans. Il y avait beaucoup de modèles de transistors qui provenaient de l'usine Stern Radio de Berlin, et ce n'est que lorsque j'ai écrit le livre que j'ai compris que j'avais moi-même participé à la construction de l'usine de Stern Radio quand j'étais maçon. Il y avait à l'Est le projet Berlin des jeunesses communistes et ses brigades du domaine du bâtiment qui s'engageaient à travailler pour construire tel ou tel édifice. Certaines brigades étaient alors obligées de travailler jusqu'à 3 mois un projet de construction et notre brigade a été envoyée à Berlin, dans le quartier de Lichtenberg. Et c'est là que nous avons construit la nouvelle usine. J'avais complètement refoulé ces souvenirs et oublié qu'il s'agissait de la nouvelle usine. J'ai fait des recherches dans tous les sens, mais ce n'est qu'en parlant avec des témoins de l'époque que j'ai réalisé que j'avais été là.
Clarisse nous lit un extrait du roman Stern 111.
Les pensées de Karl. Je suis le méchant Père Noël, le malheur imminent, chuchota Karl en descendant d'un pas lourd la Dimitrovstrasse. Il portait dans son dos un sac rempli d'outils et quelques serrures de porte qu'il avait achetées à la quincaillerie Kastorf dans la Papelallee. Kastorf passait pour le spécialiste du matériel nécessaire pour prendre possession d'une maison ou d'un appartement. Effi à Berlin, tel était le titre du conte de fées qui devait devenir réalité. Non, pas un conte, un roman, plein de bonheur et de confiance. L'appartement de Karl dans la Rieckestrasse était trop petit, mais de toute façon, Effi avait pensé à un lieu à elle. Son rêve était d'avoir son propre appartement. Avec beaucoup de retenue, elle avait demandé à Karl s'il pourrait l'aider à y parvenir, s'il savait comment s'y prendre. En même temps, il était question d'un quartier bien particulier, d'une rue qui avait les faveurs d'Effi et où vivaient deux de ses amis artistes. Il s'agissait de la Richard-Zorge-Strasse, dans le quartier de Friedrichshain. Le quartier était déshérité et parut à Karl d'une étrangeté singulière et par là même austère. Il ne savait comment le dire autrement. Même le trajet jusqu'à Friedrichshain avait été lugubre. Mais dans tous les immeubles, en fond de cour, il y avait des tanières où l'on pouvait se cacher pour extorquer au monde nouveau, bien à l'abri, sa propre part du gâteau, des tanières en briques grises, pleines de promesses, qui attendaient qu'on vienne en prendre possession, qui n'avaient pas d'autre vocation, il fallait simplement les reconnaître. Le tout était de ne pas se tromper dans son choix. Des encadrements de fenêtres sans peinture étaient bons signes, de même que des vitres aussi sales que possible. Mais ce n'était pas encore une garantie suffisante. Il ne fallait pas procéder trop hâtivement, ni sur de simples présomptions, avait dit Ragna. Première condition, la tanière devait être inhabitée, sans l'ombre d'un doute. Il était absurde de s'introduire dans l'un de ces appartements délabrés, apparemment abandonnés, alors que quelqu'un y était endormi, ou alors qu'il était habité par des gens qui étaient simplement sortis faire des courses. Deuxième condition, l'équipement minimum. Des appartements sans arrivée d'eau, par exemple, étaient inutilisables. Un poêle était nécessaire, une cuisinière bienvenue.
Das Ohr ist für Karl eben so das Leitorgan beim Schreiben und alles läuft übers Ohr, also und über die Bewegung, also gehen und
l'oreille est pour Karl l'organe majeur dans l'acte d'écrire. Tout passe par l'oreille et par le mouvement. Marcher et parler et écouter. Et tout cela ensemble amène des états de conscience diffus. Dans le meilleur des cas, il en est un verre. Il s'est fait un parcours dans l'appartement. Il y a un chevalet devant lequel il passe toujours et où il regarde le brouillon de son poème. Il est obsédé. C'est la musique qui décide. Il est à la recherche d'une existence poétique. Et c'est comme cela qu'il se l'imagine, et c'est comme s'il pouvait quitter ainsi le monde, la saleté, le délabré, tout ce qu'il y a de précaire dans sa situation. C'est une vision d'un au-delà. Il traverse la porte dorée de la poésie pour entrer dans une existence poétique, et il disparaît.
Und ist dann weg. Und dann kommt vielleicht, was weiß ich, durch irgendeine Hintertür mit Ruhm beglänzt wieder zurück.
Il revient peut-être dans ce monde par une porte arrière couverte de gloire. C'est un peu ce que Karl s'imagine. Et cela fait aussi partie de son individuation, d'apprendre que sa conception de la littérature devient séculaire, qu'il apprenne à lire. Qu'il apprenne à lire une littérature qui raconte des choses que l'on peut aussi comprendre. Et aussi que les choses compréhensibles ont le droit d'exister. Il vit un bouleversement intérieur.
Après la publication de ces deux romans, qui ont connu un très vif succès en Allemagne, Lutz Seiler est heureux d'annoncer la parution d'un recueil de poèmes qui sortira au mois d'août. Des poèmes dont on ne devine pas, dit-il, qu'ils sont nés au cours de cette année dominée par le coronavirus.
La nuit, je souhaiterais encore me rafraîchir les yeux près de la fenêtre ouverte. Et rien d'autre que de contempler le calcaire lunaire dans l'herbe. Je souhaiterais que l'herbe blanche de lune et les animaux couleur bleu cobalt habitent les guirlandes extérieures dans le jardin du voisin. Je souhaiterais des sphères, bruit de la mer qui émane du chauffage à 2h30. Le doux chant d'un navire comme si des matelots étaient enterrés en bordure de forêt. Rien de plus consolant que cela. Au lieu de dormir à la fenêtre, les yeux morts de fatigue, écoutez encore l'obscurité.
Prinzipiell ist es so, dass ich nicht parallel arbeiten kann in verschiedenen Gattungen. Also ich, wenn ich mich also auf die Prosa einlasse, dann gehe ich eigentlich ein anderes Leben rein.
En général, je ne peux pas travailler parallèlement deux genres de textes. Quand je fais de la prose, j'entre dans une autre vie. Il y a une disposition à la prose et une disposition au poème. On est de manière différente dans le monde. On perçoit les choses différemment. On fait attention à d'autres choses. Pour la prose, je suis beaucoup plus dans le présent. Je prends en compte les détails, ce que les gens disent. J'aimerais m'en souvenir. Il m'arrive d'écouter un dialogue et d'aller vite en noter quelques bribes dans mon carnet de notes, quand ce sont des choses dont je pense que je pourrais m'en servir. On a besoin d'une présence très concentrée. Et pour les poèmes, j'ai dit une fois que c'est d'une absence concentrée qu'il s'agit. On a besoin, dans des états de perception du monde diffus, mais pas moins concentré, de se créer l'illusion qu'on peut saisir une image forte, presque en ignorant la réalité. Une image forte qui va pouvoir devenir quelque chose, un vers, une métaphore, quelque chose qui va sortir peut-être par le rêve, de la relation sujet-objet dominante dont nous pensons que c'est notre manière d'appréhender le monde. Il y a alors des situations dans lesquelles on se dit « Tiens, voici un quatrain, je note cela dans mon carnet. » Je pourvois ensuite tous mes carnets de notes d'une table des matières et je note alors un G pour « Gedicht », poème. Ce qui fait que lorsque je suis dans une phase poème, je peux les retrouver et voir s'il y a éventuellement quelque chose dont je pourrais me servir. En général, ce ne sont pas deux activités parallèles, parce que j'ai besoin de beaucoup de temps pour entrer à nouveau dans la vie poème. C'est une autre vie. Un roman exige beaucoup de discipline et d'application. On passe 4 à 5 ans sur le chantier. On entend toujours la bétonneuse ronronner en arrière-plan. On n'a pas le droit de partir, sinon tout s'écroule. Quand on travaille à des poèmes, on peut tout à fait partir entre-temps. En fait, c'est mieux.
Et maintenant, Clarisse nous présente son coup de cœur du mois.
«
j'aimerais vous parler de Thérèse et Isabelle de Violette Leduc, que j'ai découvert grâce à la parution de sa traduction allemande qui sort ces jours-ci chez Aufbau. Ce roman relate les amours de deux jeunes pensionnaires d'un couvent qui sont envahis d'une passion fulgurante et d'un désir irrépressible l'une pour l'autre. Ce texte, qui fait figure de livre de référence de la littérature lesbienne, est une ode au désir. Au-delà de l'indéniable qualité littéraire du texte de Violette Leduc, l'histoire même du roman retrace l'évolution des mœurs depuis 1954, quand il a été écrit et immédiatement censuré. Le fait que Thérèse et Isabelle continuent d'être publiés comme textes indépendants semble refléter un besoin de catégoriser la littérature en genre, littérature féministe, littérature lesbienne, grande littérature. On peut se demander si cela n'est pas caduque. Initialement, le texte Thérèse et Isabelle constituait la première partie du roman Ravage de Violette Leduc, mais son contenu fut jugé trop indécent pour pouvoir être publié. Anaïs Franz, qui est spécialiste de l'œuvre de Violette Leduc, regrette que l'entreprise révolutionnaire qui consistait dans un récit qui embrassait sexe et sentiments, féminité et initiative sexuelle, érotisme et vie quotidienne, désir pour les hommes et plaisir avec des femmes, demeure irréalisée tant que Thérèse et Isabelle sera réédité séparément.
Vous trouverez sur notre page web les titres des livres dont nous avons parlé dans l'épisode. La semaine prochaine, nous irons à Leipzig rendre visite à Marion Messina, qui est l'autrice du roman « Faux départ » et qui travaille à un nouveau livre. Si vous nous suivez sur Twitter, vous pourrez y découvrir des photos de notre excursion en Saxe. En attendant de vous retrouver à la mi-juin, nous vous souhaitons de bonnes lectures. C'était Sigurd Brinkmann
et Clarisse Gosset.